Chapitre 91. Une dernière issue. Au calme derrière un bras de terre, une barque à rames en acajou verni tangue doucement sur le lac Malmcieux. Un léger vent souffle de l'est. Il apporte avec lui une faible odeur de fumier au-dessus de l'eau provenant des fermes alentour. Pontus Salman a remonté les rames, mais la barque n'a pas dérivé de plus de 10 mètres en une heure. Il se dit qu'il aurait apporté quelque chose à boire s'il avait su que cela lui prendrait autant de temps de se tirer une balle dans la tête. Un fusil de chasse à double canon est posé sur ses cuisses. Seuls les clapotements de l'eau contre la coque et le faible bruissement du vent à travers le feuillage des arbres viennent rompre le silence. Il ferme les yeux un moment, tente de calmer sa respiration, puis les rouvre et pose la crosse contre le fond de la barque. Il veille à ce qu'elle soit bien calée contre une planche et dirige le canon chauffé par le soleil de ses deux mains pour venir en coller l'extrémité contre son front. Il a un haut-le-cœur à l'idée que toute sa tête soit déchiquetée. Ses mains tremblent tellement qu'il est obligé d'attendre un moment. Il se ressaisit et dirige la bouche du canon sur son cœur. Les hirondelles ont commencé à voler plus bas. Elles rasent la surface de l'eau à la recherche d'insectes. « Il va sans doute pleuvoir cette nuit », se dit-il. Un avion dessine un trait blanc sur le ciel et Pontus pense de nouveau à son cauchemar. À cette idée, il lui semble que tout le lac s'assombrit, comme si l'eau noircissait depuis les profondeurs. Il prend alors le canon dans sa bouche. Il le sent frôler ses dents, il sent le goût du métal. Il tend la main vers la détente, mais se fige en entendant le bruit d'une voiture. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. En une seconde à peine, de nombreuses idées fusent dans sa tête. Il réalise enfin que ce ne peut être que sa femme, car elle est la seule à savoir où il se trouve. Il repose le fusil et sent son pouls battre dans tout son corps. Il tremble comme une feuille en tentant d'apercevoir quelque chose entre les arbres du côté de sa maison. Un homme marche sur le sentier menant au ponton. Il lui faut un moment pour comprendre qu'il s'agit de l'inspecteur qui s'est rendu à son bureau pour lui montrer la photo de Véronique. En le reconnaissant, une angoisse d'une toute autre nature l'envahit. « Dites-moi que ce n'est pas trop tard », se répète-t-il encore et encore, alors qu'il commence à ramer en direction du bord. « Dites-moi que ce n'est pas trop tard. Dites-moi que je ne vais pas devoir affronter mon cauchemar. Dites-moi que ce n'est pas trop tard. » Pontus Salman ne rame pas jusqu'au ponton. Son visage est livide, et il se contente de hocher la tête lorsque Yonalina lui demande d'approcher. Il fait pivoter la barque à l'aide de ses rames de façon à ce que l'avant de l'embarcation pointe vers le lac. Yona s'assied sur le banc fissuré et décoloré par le soleil, installé au bout du ponton. Au bord du lac, la végétation semble vibrer dans la chaleur. L'eau clapote doucement.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
demande Pontus d'une voix effrayée.
« Je viens de parler avec votre femme, » dit Yona à voix basse. « Vous lui avez parlé ?»
« Oui, et je... »«
Vous avez parlé avec Véronique ?» demande Pontus inquiet.
« Je dois vous poser quelques questions. »«
C'est trop tard. »«
Vous avez tout le temps pour faire ça, »
dit Yona en regardant le fusil dans la barque.
« Que savez-vous ?»
marmonne Pontus. Les rames bougent doucement dans l'eau.
« Je sais que les munitions pour le Kenya sont en réalité destinées au Soudan. »
Pontus Salman ne répond pas.
« Je sais que c'est votre épouse qui a pris la photo dans la loge. »
Pontus demeure la tête baissée, mais relève les rames et de l'eau s'écoule sur ses mains.
« Je ne peux pas mettre un terme à cette affaire, » dit-il résolument. « J'étais pressé. J'avais besoin de cette commande. »
« Alors vous avez signé le contrat.
C'était inattaquable. Même une fois l'affaire dévoilée au grand jour, on pouvait tous prétendre être de bonne foi. Personne n'était coupable.
Et pourtant ça a mal tourné.
Oui. J'avais prévu d'attendre pour vous arrêter.
Puisque vous ne pouvez rien prouver.
Je n'en ai pas encore parlé avec le procureur, mais je suis sûr que nous pouvons vous proposer une remise de peine si vous acceptez de témoigner contre Raphaël Guidi.
Témoigner ? Je ne témoignerai pas, dit Pontus d'une voix ferme. Vous ne comprenez pas. J'ai signé un type de contrat très particulier, et si je n'étais pas aussi lâche, j'aurais déjà fait comme Palmcrona.
Nous vous protégerons si vous témoignez.
Palmcrona a trouvé un moyen d'y échapper, chuchote Pontus. Il s'est pendu. Désormais, c'est son successeur qui doit signer l'autorisation d'exportation. Palmcrona n'avait plus aucun intérêt pour Raphaël, et il n'a pas eu à affronter son cauchemar.
Un sourire illumine soudain le visage blafard de Pontus. Yona l'observe un moment. Lui sait que Palmcrona n'a pas échappé à son cauchemar, à savoir la mort de son fils.
Une psychologue est en chemin, explique Yona, et elle va tenter de vous démontrer que le suicide n'est pas...
Pontus Salman commence à ramer vers le large.
Pontus, je n'ai pas fini. J'ai d'autres questions,
dit Yona en haussant la voix.
Vous dites que le prochain directeur de l'ISP sera obligé de signer l'autorisation, mais que se passera-t-il s'il refuse? Ne peut-il pas simplement refuser de conclure un pacte Paganini?
Pontus Salman s'immobilise, mais la barque continue de glisser, ses rames traînant dans l'eau.
Si, il le peut, répond-il calmement. Mais il ne le fera pas.